du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Au sommaire du premier pédalo de la saison, 855. 855, c'est le nombre de personnes mortes dans la rue en 2024. Ces chiffres en forte hausse s'expliquent par une augmentation du nombre de signalements, mais aussi de personnes sans domicile fixe. Francine Juel, coordinatrice de l'association Jinko, collectif d'accompagnement des morts de la rue, sera avec nous pour en parler, accompagnée d'une autre membre de l'association. On vous diffusera également un reportage de la Frappe, un reportage issu de la série de podcasts L'eau, un enjeu de société. Aujourd'hui, nos confrères de Radio OG nous emmènent à la rencontre des aménagements mis en place par le département du Maine-et-Loire qui permettent aux animaux de franchir les barrages qui bloquent la migration. Vous savez tout, alors ajustez votre gilet de sauvetage, le pédalo part à l'abordage.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Francine Juel, bonsoir.
Bonsoir.
Alors je vais vous laisser bien parler proche du micro.
D'accord. Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes accompagnée de la secrétaire de l'association qui vient d'arriver dans les studios. C'était pas tout à fait prévu. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Vous êtes Angélique Régnier.
Régnier.
Tout à fait. Alors je vous laisse bien parler proche des micros s'il vous plaît. On ne vous cache pas que vous êtes arrivé à la radio il y a littéralement 45 secondes, ce qui entraîne une certaine désorganisation dans la présentation des invités. Mais c'est avec un immense plaisir qu'on va discuter tous les trois pendant ce premier pédalo de la saison. Vous dites régulièrement, Madame Juel, ne pas oublier les oubliés. C'est une phrase que vous avez prononcée hein, de multiples reprises, alors que vous rendiez hommage aux victimes de la rue. En 2024, donc, je le disais, selon les décomptes partiels du collectif Les Morts de la rue, ce sont 855 personnes qui sont décédées sans avoir de toit. En 2023, c'était près de 100 personnes de moins. On parle de chiffres à l'échelle nationale. Oui. Francine Juel, qui sont ces personnes qui meurent dans la rue?
Alors, elles sont mortes sur la voie publique, dans des abris de fortune, tels que des parkings, cages d'escalier, cabanes de chantier ou dans le métro, mais aussi en lieu de soins ou en structure d'hébergement. Alors, qui elles sont? Ce sont des gens qui ont vécu, en fait, la spirale de l'exclusion, hein, qui sont sans logement, mais qui ont eu une vie sociale avant, souvent.
Oui, très souvent.
Je laisse bien parler proche du micro, s'il vous plaît.
Enfin, Angélique peut témoigner comme moi, puisqu'elle a travaillé pour le SAMU.
J'ai travaillé au SAMU social, oui.
C'est ça. Et elle a fait les maraudes, donc elle a été en contact avec ces gens-là plus que moi.
Et donc, alors, qui sont ces personnes qui meurent dans la rue
Eh ben, en fait, c'est des parcours complètement différents. Ce qu'on peut dire, c'est que, moi, ce que je me suis rendu compte lors des maraudes, ces cinq dernières années, c'est que il y a des personnes de plus en plus jeunes, ça vraiment, des personnes de plus en plus âgées, qui étaient en demande de couverture.
C'est à la fois de plus en plus jeunes et de plus en plus âgées.
Ouais, voilà, des personnes en retraite, qui se retrouvent à la rue parce que ils peuvent plus payer leur logement ou X galères, et beaucoup plus de femmes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est... moi, j'intervenais au PASS, donc le PASS, c'est une structure d'accueil de jour qui est gérée par le CCAS d'Angers. Et en fait, il y a 15 ans, ce n'était pas du tout les mêmes publics, en tout cas sur Angers. Hein. Moi, je parle pour Angers. Et effectivement, le nombre de femmes a augmenté.
Vous avez constaté ça aussi est-ce que ça se répercute dans les profils des personnes qui meurent dans la rue?
Oui. 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 Oui, parce que la moyenne d'âge, Francine, elle peut vous le donner. Hein, mais,
Au niveau national, c'est 48 ans.
Ouais. C'est ça. Et nous, vous voyez, dans les derniers là, de 2024, ça va de 33 à 53 ans. Donc les 6 là, qu'on a eu en 2024 à Angers, ça va de 33 à 53 ans.
À Angers, en 2024, il y a eu 6 personnes décédées dans la rue.
C'est ça.
Par rapport à 2023, c'est un chiffre qui se situe comment, pour qu'on se rende compte?
C'est à peu près... Puis là, en 2025, on est rendu à 5 ou 6, la personne.
Ouais. Après, ça dépend des années. Il y a eu des années où c'était plus les hiatons. Moi, j'ai le souvenir de 2021, où là, je crois que les chiffres avaient un peu explosé. Mais bon, voilà, la moyenne d'âge, elle est quand même pas très, très élevée. Quoi.
Qu'est-ce qui fait qu'il y a des années, il y a une mortalité plus importante que d'autres? Est-ce que c'est le dérèglement climatique? C'est les capacités d'accueil? C'est l'argent mis sur la table pour prendre soin de ces personnes sans domicile aussi, fixe?
Mais c'est la violence qui s'accélère, ça on s'en aperçoit dans tous les domaines. Mmh. Et la rue tue, ça c'est ce que on s'escrime à dire. La rue tue, quoi. Et ces jeunes-là, il y a 20% des SDF, des personnes sans domicile fixe, des jeunes qui sont des anciens enfants placés.
Oui.
Il faut savoir ça, et ce nombre-là augmente.
Oui. Il y a de plus en plus d'enfants placés, donc ils se retrouvent en foyer, et à la majorité, ou même avant, souvent on les retrouve à la rue, quoi.
C'est ça.
Donc effectivement, il y a des manques de financement, il y a des manques de place.
Parce dans les structures d'accueil.
Dans les structures d'accueil, qui sont pleines à craquer.
À Angers comme ailleurs.
À Angers comme ailleurs, ouais.
Oui.
Ouais, ouais. Angers, il y a quelques années, c'était encore jouable. Maintenant, c'est hyper compliqué. Il y a aussi le fait d'attendre beaucoup plus longtemps pour avoir un logement. À Angers, avant, on obtenait un logement assez rapidement. Maintenant, c'est 3 ans d'attente. Il y a le fait que la vie est plus compliquée pour tout le monde financièrement. Il suffit de je sais pas. Enfin, moi, j'ai vu des gens très hauts tomber, malheureusement très bas, quoi. Donc, vraiment, ça touche tout le monde, la rue. Ça peut toucher tout le monde, la rue.
Et c'est vrai que l'année dernière, au moment des Jeux Olympiques de Paris, on a vu des déplacements de populations de personnes sans domicile fixe, à qui on a plus ou moins demandé de partir de Paris.
C'est pas qu'on leur a demandé, c'est qu'on les a mis dans des bus et puis ils sont arrivés ici. Hein.
Et
Il y en avait 50 par semaine
ouais.
qui arrivaient pour toute la région.
Et alors, est-ce que ces personnes sont restées? Est-ce que ça a changé aussi
elles
la
ont été, non, non.
Elles ont été dispatchées un peu à droite à gauche.
Dispersées dans la région.
Mais Angers est une ville qui attire beaucoup. Enfin, on le voit bien aussi, depuis le Covid, on n'est pas loin de tout. C'est une ville qui est plutôt calme.
C'est ça. Et du point de vue associatif, on a une très bonne réputation.
Associatif, et puis même en termes de médecins, on est encore pas mal. Et c'est une ville qui est plutôt agréable, donc... Donc oui, on le voit, il y a de plus en plus de monde à la rue.
En tout cas, de plus en plus de monde à la rue, ça c'est sûr. Mais ce qui est surtout alarmant et ce dont on va parler ensemble, c'est ce nombre au niveau national en constante augmentation de personnes qui meurent dans la rue, qui sont décédées sans avoir de toit. Et le rôle de l'association Jinko, à laquelle vous appartenez toutes les deux, de laquelle vous êtes membre, c'est de prendre soin des corps, d'accompagner les familles. Est-ce que vous êtes en relation avec les familles des personnes qui sont décédés dans la rue?
Alors, quand ils le souhaitent...
Ils le souhaitent, qui? Les familles ou les personnes?
Alors, en fait, nous, famille ou pas famille, de toute façon, on est prévenus. Donc, en fait, nous, l'idée...
Par la ville, pardon.
Et l'idée, c'est pour nous, voilà, c'est insupportable d'être enterré tout seul. Et on a eu beaucoup de sépultures où il n'y avait personne, strictement personne.
Et, à part vous.
À part nous.
À part nous.
Donc, pour nous, c'est important de partir accompagné, en tout cas.
Ouais.
Et donc, il se peut que quelquefois la famille est présente, donc on le sait, ou des amis, ou des voisins. Quelquefois, on ne le sait pas, parce qu'ils sont aussi dispatchés. La dernière personne, là, l'enfant était à l'étranger.
Ouais.
Donc, voilà. Et après, c'est vraiment si. Alors, soit on reste un peu à l'écart, si vraiment, voilà, on sent que la famille est plutôt présente, soit on va se présenter, on présente aussi nos missions, notre rôle. Et puis après, effectivement, c'est d'avoir aussi l'accord des personnes, de la famille, pour que nous, après, on puisse aussi inscrire.
Oui, parce que quand ils retrouvent, la ville d'Angers arrive à retrouver de la famille, parce que tout le monde a une famille.
Oui.
Mais il y en a beaucoup, ils ne veulent plus en entendre parler, quoi. Oui. Ils ne veulent même pas se déplacer ou faire quoi que ce soit.
Puis il y a plein de... La famille n'est pas au courant que la personne est à la rue.
Oui, c'est ça, ils découvrent en même temps. On leur annonce le décès d'une personne, ils avaient coupé depuis 5 ans, 10 ans, etc.
Ou même ils ne souhaitent pas notre présence, ça aussi, ça arrive.
C'est ça. Et donc ça doit être l'année dernière qu'il y avait un monsieur qui était décédé au jardin du Mail, vous savez, dans la forêt.
Ça, c'est la mairie.
Et Et là, on était quelques-uns de l'association à l'accompagner. Et il y avait sa sœur et sa fille qui étaient là, qui nous ont remerciés. Mais alors, parce qu'on a fait, bon, on lit des poèmes, on met un peu de musique.
Oui, enfin, comment ça se passe, les cérémonies que vous organisez, puisque vous ne connaissez pas les personnes. Vous ne connaissez pas les personnes.
On essaie de savoir. On essaie de savoir. Donc, si c'est quelqu'un de la rue, on passe. Tu sais le comment. Le titre là que vous aimez, la musique reggae un peu
Claudio Capéo,
noirs là,
les berruriers noirs,
c'est ça,
ah oui,
voilà.
Claudio Capéo, ouais.
C'est ou Claudio Capéo, ouais. C'est une très belle chanson sur les TF. Voilà, donc on essaie de passer cette musique-là.
Et donc vous lisez aussi des poèmes,
c'est ça,
oui.
C'est ça,
et à chaque fois vous faites en fonction de qui était la personne que vous avez rencontrée, retrouvée.
Oui, c'est ça.
On essaie d'avoir des informations. Alors, si c'est quelqu'un qui a fréquenté les CSAS, donc voilà.
Les CSAS, c'est les centres communaux d'action sociale. Oh, ouais. C'est hyper important de rappeler un peu le rôle des CSAS, puisque c'est vraiment la porte d'entrée pour plein de personnes sans domicile fixe vers les démarches administratives et le relogement, puisque notamment, c'est là où ils peuvent avoir une boîte aux lettres.
Bien sûr.
Et ça, c'est hyper important, le rôle des CSAS dans la vie des personnes sans domicile fixe.
Et moi, je fais une parenthèse, c'est que la ville d'Angers, enfin, fait très bien les choses dans le PASS, donc qui est le point d'accueil solidarité pour l'accueil de jour, où ils reçoivent une centaine de SDF tous les jours. Et vraiment, il y a une assistante sociale, il y a une infirmière, une psychologue.
Il y a une bagagerie, une laverie, chenil.
Et vraiment, il y a un accompagnement. C'est vraiment remarquable. Hein,
Francine Juel et Angélique Régnier sont avec nous de l'association Jinko, un collectif d'accompagnement des morts à la rue d'Angers. En 2024, selon un décompte partiel du collectif Les Morts de la Rue au niveau national, ce sont 855 personnes qui ont été déclarées décédées sans avoir de toit. Angélique et Francine, comment vous est venue cette vocation de vous occuper des personnes mortes dans la rue?
Alors, moi, je vais commencer...
À la rue.
À la rue. Moi, je suis arrivée... Alors, je suis éducatrice canine à la base. Donc, je suis arrivée un petit peu dans le social par hasard. À savoir qu'à l'époque, les cours d'éducation étaient financés par la ville d'Angers. Donc, totalement gratuit pour les habitants. Et en fait, à l'époque, on m'a demandé un coup de main au PASS, justement... où il y avait beaucoup à l'époque de punk à chien. Et en fait, voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et on a commencé à faire un chenil là-bas, donc accueillir les personnes accompagnées d'animaux, parce que ça aussi, c'est un gros frein à l'entrée d'hébergement. Et puis, j'ai toujours un peu connu le collectif, parce qu'il y avait aussi les bénévoles du collectif, soit travaillaient au 115, ou voilà, de plusieurs univers différents. Et voilà, moi j'ai voulu l'intégrer pour apporter quelque chose. Et j'ai aussi vu des gens mourir tout seuls dehors, quoi. Enfin, j'ai trouvé des personnes seules dans une tente. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est pas possible de mourir tout seul sur un trottoir, quoi. Donc, au moins dans un lieu, dans un lit ou dans un hébergement, et encore moins partir tout seul. Donc voilà, ça a été pour moi une obligation de le faire.
Francine.
Voilà, alors moi, les hasards de la vie veulent que, en fait, j'ai été 8 ans au Secours Populaire et je faisais les permanences et j'ai reçu beaucoup de SDF et il y en a un que j'étais pas très consciente de la chose, mais que j'ai hébergé chez moi. En fait, parce qu'il était dans une caravane, en situation illégale, qu'il avait froid, etc. Mais parce que j'avais la possibilité de le faire aussi. Hein. J'avais un grand jardin, enfin, je pouvais le faire. Et donc, on l'a installé dans notre parking, chez nous. Et puis, en fait, il est décédé 7 mois après, chez moi. Donc, si vous voulez, ça m'a marqué quand même. Hein. Mmh. Frédéric, donc, qui est décédé chez moi. Puis après, le hasard de la vie, je sais pas, parce que moi, j'accoste un peu tout le monde, je demande comment ils vont, etc. Et puis, j'en ai reçu plusieurs chez moi, sous différentes façons. Des fois, c'est dans les tentes, des fois, c'est le logement de mon frère. Enfin bon, dans différentes situations. Et ce qui fait qu'il y en a deux qui sont décédés en SDF et qui sont sur la plaque commémorative que nous avons au cimetière de l'Ouest.
Voilà. Parce que c'est quand même, je vous pose la question un peu à propos, parce que c'est quand même une vocation de s'occuper des personnes qui meurent à la rue. C'est très violent de mourir seul, mais ça doit être aussi très violent pour les familles de savoir que leur proche est mort seul, notamment quand ils découvrent qu'ils étaient à la rue. Mais et pour vous, vous êtes, enfin, il y a une très grande humanité qui se dégage de l'action que vous menez, mais en même temps,
pas l'impression que je fais quelque chose d'extraordinaire.
Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire.
C'est naturel.
Pour vous, j'ai l'impression que comme ça, vous ne portez pas un discours en disant que...
Bah, moi, j'ai toujours été dans le monde du social, malgré le chien.
C'est ça.
Toujours dans... et c'est vrai que c'est... Non, c'est naturel, comme dit Francine. Je pense que quand on a un peu d'empathie, qu'on a un petit cœur, voilà...
Je me sentirais pas bien. C'est... Surtout
pas...
que j'ai la possibilité de le faire, quoi. C'est ça.
Et puis, on ne peut pas rester indifférent. Enfin, en tout cas, moi, je ne peux pas passer devant quelqu'un qui est sur un bord de trottoir... Voilà, sans lui faire un sourire ou lui donner une petite pièce ou quelque chose, quoi.
Donc, je ne donne pas de pièce, mais, je donne mon temps, mon énergie, mais je n'ai jamais donné un sou à STF. Mais bon, il y a d'autres moyens.
C'est vrai qu'on a eu une fois un monsieur qui est venu, voilà, à une sépulture et qui nous a dit, ça me fait bizarre parce que je ne suis jamais allé à un enterrement de quelqu'un que je ne connais pas.
C'est ça.
Et c'est vrai que nous, on a réalisé que... Ah ben oui, en fait, certains, on ne les connaît pas. Certains, moi, je les ai connus, hein, par le biais de la maraude et tout ça. Mais voilà, c'est...
Ça n'empêche, oui.
Ça n'empêche.
Parce que, vous voyez, c'est dans nos statuts, hein, puisqu'on a fait une association. Les collectifs des morts de la rue a été géré sous forme d'association en 2021. Oui. Et en fait, le but c'est d'accompagner dignement les personnes décédées à la rue ou ayant connu la rue... organiser des funérailles dignes dues à toute personne humaine, quelle que soit sa culture, sa religion et son parcours de vie. Mmh. Vous voyez, il n'y a pas de jugement. Donc c'est pour ça qu'on est, on s'est tourné là récemment vers la communauté africaine et qui du coup nous a rejoint et notre partenaire
et la communauté musulmane
et puis la communauté musulmane aussi parce que on a de plus en plus de musulmans de gens qui sont à la rue qui sont musulmans et alors nous on respecte quand on ne sait pas on fait rien parce qu'on a un prêtre catholique avec nous mais même s'il est là, on dit rien, on n'impose rien, quoi. Mais quand c'est des musulmans, ils ont le droit, eux aussi, à leur rituel.
Qu'est-ce que ça dit de notre société qu'il y a encore autant de personnes qui meurent à la rue chaque année? On a vu encore récemment, la région des Pays de la Loire a voté une suppression à 100% du budget aux solidarités. Vous êtes combien dans votre association? Je suppose pas extrêmement nombreux et nombreuses. Qu'est-ce que ça dit aussi du respect qu'on a pour nos morts et des considérations qu'on peut avoir pour les vivants comme pour les morts, d'un point de vue un peu philosophique, éthique?
C'est pour ça qu'on se bat, c'est pour ça qu'on est là, parce qu'on y croit, parce qu'on dit que toute personne humaine mérite un respect, quel qu'il soit.
Effectivement, comme vous dites, on n'est pas nombreux. Après, voilà, on est une petite asso et c'est un choix aussi parce qu'on se connaît tous. On vient tous d'un monde, que ça soit du social ou de bénévole.
C'est ça.
Et... Est-ce que la culture occidentale, j'ai l'impression que ce que vous êtes en train de décrire, ces morts à la rue, c'est des choses qui pourraient moins arriver dans d'autres sociétés que nos sociétés occidentales.
C'est difficile de répondre à ça, mais je sais pas. Peut-être que oui, dans certains pays, il y a plus de solidarité sur la nourriture ou voilà.
Ou le respect des corps et le respect des morts.
Ou le respect,
Parce que enfin, en France, on meurt pas de faim. Il y a quand même beaucoup d'associations qui...
De quoi meurent les gens qui sont à la rue?
La violence, c'est... Il y a des assassinats, il y en a eu
Alors
un.
De violence, oui, violence, ça peut être les addictions aussi.
Les addictions. Et la maladie, parce la que maladie, ce sont, quand ils sont addicts à l'alcool, à la drogue, etc., la santé se dégrade, et ils ne se soignent pas, ou ils sont diabétiques, ils ne se soignent pas non plus. Donc c'est la dégringolade, quoi.
Vivre à la rue, ça enlève 30 ans de vie. Hein.
C'est ça.
Ouais.
C'est ça les chiffres qui reviennent régulièrement.
Ils meurent 30 ans plus jeune.
Oui, parce que c'est tout un... de fatigue aussi, parce que quand on dit on ne meurt pas de faim, peut-être en France, mais il faut s'imaginer le sac à dos avec toute sa vie à l'intérieur, les couvertures qu'on doit garder, qu'on ne peut pas acheter parce qu'on n'en a plus. Et puis c'est d'aller à tel point... pour aller boire un café ou laver son linge, aller à tel point pour aller voir une infirmière, aller à un tel point pour téléphoner à 8h le matin pour avoir une place à la halte de nuit. Enfin, c'est tout un...
Et puis la solitude aussi à laquelle...
Vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de kilomètres. Enfin, c'est incroyable. Donc, pour manger, se laver, laisser ses affaires en sécurité... Donc ouais, c'est nous souvent. Enfin, moi, je me souviens, j'ai travaillé en CHRS. Quand les gens sortent de la rue entre guillemets, qu'ils y aient passé un an ou 10 ans, ils sont hyper fatigués, quoi. Il leur faut 1 ou 2 mois pour, vraiment pouvoir se poser et dormir, parce que quand on est à la rue, que ça soit une femme ou un homme, mais encore plus pour une femme, il y a toutes les violences qu'il y a autour. Donc effectivement, certaines vont prendre un chien pour se défendre, mais on ne dort pas. Moi, les gars me disaient qu'ils dormaient de 21h à minuit. Après, ils ne dorment plus. Parce qu'on se fait taper dessus, parce qu'on se fait piquer son sac, parce qu'on a froid, parce que...
C'est quoi la période la plus difficile pour les personnes à la rue? Là, on va arriver dans la période estivale avec des très très grosses chaleurs. Les étés sont plus chauds, les hivers sont plus froids.
Ouais.
C'est quoi la période la plus difficile?
On a tendance à croire qu'il y a plus de décès l'hiver. Et ce qui est faux, souvent il y a plus de solidarité l'hiver. Mais après, si on prend un peu les chiffres, je pense que c'est un peu une moyenne. Et effectivement, après, les maraudes sont déclenchées plus tôt en cas de canicule ou en plein grand froid. Le pass ouvre aussi ses portes plus tôt. Donc là, c'est vraiment des maraudes avec de l'eau. Après, moi, j'ai été beaucoup surprise aussi par les Landes. Il y a quand même de la générosité chez les gens. Moi, j'ai vu beaucoup de gens faire des maraudes spontanées comme ça. Ça peut être une mère et sa fille, ça peut être des personnes retraitées. Il y a beaucoup aussi de gens, des jokers, qui prennent des gens qui n'ont pas de place chez eux. Donc non, il y a quand même... Enfin, moi, j'ai été hyper surprise de quand même cet élan de bienveillance qu'il y a.
Eh bien, écoutez, le temps file et je me rends compte que nos 23 minutes sont déjà écoulées. Un immense merci à toutes les deux, Francine Juel et Angélique Régnier de l'association Jinko, d'avoir répondu à nos questions sur Radio Campus Angers. Je suppose que, comme toutes les associations, vous recherchez peut-être des bénévoles. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Et surtout, comment est-ce qu'on peut signaler des personnes qui sont mortes à la rue?
C'est-à-dire qu'on fait un appel à cotisation régulièrement à toute la veille sociale, à beaucoup de gens.
Est-ce que vous avez un numéro de téléphone ou un mail auquel on peut vous joindre?
Oui, alors on a un mail, oui, c'est...
Après, voilà...
Sinon, on mettra tout sur le site internet, ouais, vous embêtez pas.
Nous, on ne demande pas forcément beaucoup d'argent, parce qu'on n'a pas de gros...
À part les fleurs,
voilà, c'est vrai qu'on... On apporte des fleurs quand il y a un enterrement, oui, et puis... on met des ardoises avec la feuille de Jinko sur le carré des indigents. Ça aussi, ça nous tient à cœur. Pour qu'il n'y ait pas qu'une plaque vide.
Et Jinko, qui est le premier arbre qui aurait repoussé à Hiroshima après les bombes nucléaires.
C'est la symbolique.
Le contact, c'est mort@angers.gmail.com. Merci beaucoup
à
toutes les deux d'être venues à nos micros sur les ondes de Radio Campus Angers. Tout de suite, on écoute un peu de musique pour se détendre. On écoute Mézergue et son titre New Stems. Mézergue, c'est un multi-instrumentiste qui joue notamment du térémine, un des plus anciens instruments de musique électronique, le térémine qui se joue grâce à la captation du mouvement des mains autour d'antennes. Vous allez voir, c'est sublime, très impressionnant. À tout de suite, restez bien avec nous sur les ondes de Radio Campus Angers à bord du pédalo.
Sur Radio Campus Angers.
Dans le Maine-et-Loire, le département mène des travaux ambitieux pour restaurer la continuité écologique des rivières, notamment sur la Mayenne, où l'activité humaine est venue contraindre le cours naturel de l'eau. Face aux barrages qui bloquent la migration des poissons, des rivières de contournement et des passes à poissons sont mises en place, comme à Montreuil-sur-Maine et Grenneville, des aménagements qui permettent aux espèces de franchir les obstacles et de retrouver des habitats naturels. Une marche prometteuse pour la biodiversité locale. Pierre-Benoît Leclerc de Radio G est allé à la rencontre de François Letourmy, technicien domaine public fluvial au département de Maine-et-Loire, pour en savoir plus sur les travaux de continuité écologique portés par le département. Un reportage en partenariat avec la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Seuls 11% des masses d'eau de la région sont en bon état écologique. L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Nous voilà sur la rivière de contournement de Montreuil-sur-Maine.
Sur la Mayenne, comme ailleurs, l'activité humaine est venue contraindre le cours naturel de l'eau. Les barrages fréquents bloquent la remontée de la rivière par certains poissons migrateurs. Des dispositifs existent donc pour garantir la continuité écologique de ces espèces, comme une rivière de contournement. C'est ce que nous explique François Letourmy, technicien domaine public fluvial au département de Maine-et-Loire.
On avait sur cette partie-là, en rive gauche du cours d'eau, uniquement des prairies. On a pu concevoir cette rivière qui, en fait, tout simplement... contourne le barrage pour le rejoindre juste à l'aval, quoi. On maîtrise les débits qui rentrent dans cette rivière et donc qui restent relativement faibles. Et donc pour éviter d'avoir des vitesses d'eau trop importantes dans cette rivière de contournement, on a remis des seuils intermédiaires. On voit plein de petits seuils qui sont donc comme des mini-barrages en béton, en fait. Hein. D'ailleurs, tu vois, les seuils, ils sont en forme de V. Donc en fait, plus le niveau d'eau baisse et plus le débit qui rentre dans la rivière devient faible. Et donc on impacte de moins en moins, en fait, l'eau en amont.
Je me pose une question très bête, mais si on fait une rivière de contournement, pourquoi on n'enlève pas tout simplement le barrage ?
Le problème, c'est que c'est pas la solution idéale pour maintenir la navigation et puis tous les usages qu'on peut avoir de ces barrages. Donc ici, il n'était pas question de cette solution-là.
Et on a un retour des poissons, ce qu'ils en pensent ?
On n'a pas de retour directement des poissons, pas plus que sur les autres systèmes. Par contre, on s'est déjà rendu compte que ces rivières, elles avaient une qualité en plus, c'est d'être des habitats. On se rend compte qu'il y a plein de poissons qui vivent en fait maintenant à l'année, hein, qui élisent domicile dans la rivière de contournement et qui vont être des poissons un peu différents de ceux qu'on trouve dans la rivière, dans la grande rivière, disons. parce que les eaux sont courantes en fait, et donc on va avoir des espèces adaptées à ces milieux, comme le barbeau fluviatile par exemple.
François nous fait descendre la rivière pour aller découvrir un autre dispositif permettant la continuité écologique à hauteur du barrage de Grenoville, toujours sur la Mayenne.
Donc là, ce qu'on va voir en rive gauche, tout au fond, c'est un ancien moulin. Ensuite, on va avoir accolé à ce moulin un premier pertuis. On a accolé à ce pertuis une passe à anguilles. Et ensuite, on retrouve le barrage pour arriver en rive droite à la passe à macro-rugosité.
Alors ici, spécifiquement, du coup, à Grenoville, percé à deux endroits sur le barrage, on a des espèces de des menhirs, des piliers qui sont empilés. Qu'est-ce qu'on a essayé de mettre en place comme solution, justement, pour leur permettre de passer, de franchir ce barrage?
C'est un mot barbare, on dit une passe à macro-rugosité, donc qui est en fait tout simplement une pente en béton dans laquelle on vient mettre des blocs en béton, des menhirs, qui vont réduire la vitesse des écoulements, et donc permettre aux poissons de remonter plus sereinement cette chute d'eau, qu'on va donc étaler en fait, le long du barrage. De l'autre côté, on a le même dispositif, finalement en miniature, et qui va être destiné exclusivement aux anguilles.
Ça fonctionne ?
Donc c'est très récent, on a assez peu de recul aujourd'hui sur leur efficacité. On n'a pas de dispositif de suivi particulier qui ont été mis en place, parce que c'est très difficile à suivre. En fait, ce qui existe comme système, c'est ce qu'on appelle de la télémétrie. Donc c'est mettre des puces sur les poissons et ensuite des radars en fait pour pouvoir savoir où ils en sont, ça coûte très très cher, donc le département n'a pas fait le choix de ce suivi. Par contre, il y a quand même des pêches électriques qui sont faites à des échelles plus larges, notamment par l'Office français de la biodiversité, et qui permettent de rendre compte des espèces qu'on va trouver le long du cours d'eau. Et donc à ce titre-là, on commence déjà à avoir une bonne efficacité de ces passes à poissons. On a par exemple trouvé à Sablé-sur-Sarthe une alose. Donc poisson migrateur qui était jusqu'à présent bloqué à chef sur la Sarthe.
C'est la solution idéale ?
Bah, ça me paraît indispensable, hein, malgré le fait que c'est un coût relativement important. Il faut savoir que pour ces ouvrages, sur le chantier fini, on est de l'ordre de 1,5 million d'euros par ouvrage à peu près. Alors après, il y a des financements hein, qui viennent en grande partie de l'agence de l'eau, de l'ordre de 50%, et de la région Pays de la Loire, de l'ordre de 30%.
C'était l'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de La Frappe en partenariat avec Terre des Sciences, avec le soutien de la région des Pays de la Loire.
Un reportage réalisé par Pierre-Benoît Leclerc pour Radio G.
Et sur Radio Campus Angers, le pédalo termine sa traversée. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Un grand merci à Kylian, à la technique. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.